Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Bonjour, 11h-13h, CBS News Weekend. On a commencé par ces sirènes que les habitants de Jérusalem ont entendues hier soir. Édition spéciale consacrée évidemment à cette attaque de l'Iran contre Israël. Une attaque sans précédent. On en parlait hier dans cette même émission. Eh bien, elle a eu lieu, on s'y attendait. Durant nos 2 heures, nous serons partout avec nos équipes, nos correspondants sur le terrain en Israël, aux États-Unis. Nous aurons beaucoup de témoignages, nous donnerons la parole aussi bien sûr aux Israéliens. C'est important de les écouter. Après le massacre du 7 octobre, c'est à nouveau l'angoisse pour eux. Et puis sur notre plateau, décryptage avec nos invités et nos spécialistes. Avec moi durant ces 2 heures pour cette édition spéciale, Naïma M. Fadel, essayiste, soyez là. Bienvenue.
Merci Thierry.
Muriel Wakin-Melki, avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. C'était important de vous avoir à nos côtés, évidemment. Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Patrice Arditi, que je salue, infidèle de l'émission, journaliste. Denis Deschamps, géopolitologue. Et puis Najwa El-Haïté, évidemment, avocate. On va commencer évidemment par cette attaque dont on vous parle depuis hier soir. Plus de 300 drones et missiles ont été envoyés vers l'État hébreu hier soir aux alentours de 22h, où il était 22h. La vaste majorité a été interceptée sans conséquence pour le moment, selon Tsahal. On fait le point avec Kylian Salé.
22h ce samedi à Jérusalem, des détonations retentissent dans la ville. Quelques instants plus tard, les sirènes d'alerte ordonnent aux habitants de rentrer chez eux. Israël est la cible d'une attaque coordonnée entre l'Iran, le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites Houthis. Des drones et des missiles sont lancés sur Israël. Dans le ciel de Jérusalem, des lumières scintillent. Le système de défense antimissile israélien effectue son travail de protection. La grande majorité des missiles ont été interceptés. D'autres n'auraient fait que des dégâts mineurs sur une base militaire. À 70 km de là, à Tel Aviv, certains habitants sont inquiets. D'autres ne craignent pas l'attaque.
Nous avons tous entendu parler de l'attaque de l'Iran. Mais nous n'avons pas peur parce que nous voulons fêter l'anniversaire de l'un de nos amis. Et nous nous sommes déjà habitués à être attaqués au cours des 6 derniers mois. Pour nous, ce n'est donc qu'une soirée habituelle à Tel Aviv.
C'est la première fois que l'Iran nous attaque directement, pas par le Hezbollah, etc. Alors, les supermarchés, tout le monde va chercher à manger, tout le monde réfléchit à quoi faire, où se mettre.
Dans le même temps, des roquettes sont tirées sur le Golan, région stratégique syrienne contrôlée par Israël. En Iran, des scènes de liesse ont lieu après ces attaques. Plusieurs milliers d'Iraniens descendent dans les rues et crient notamment « mort à Israël ». L'espace aérien israélien a été fermé pendant 4 heures ce dimanche, entre 00h30 et 04h30 heure locale.
Première réaction avec vous, Muriel Wakin-Melki. Je rappelle que vous êtes avocate et bien sûr aussi présidente de l'Organisation juive européenne. Que vous inspire cette attaque? On en parlait depuis plusieurs jours. Elle était prévisible, elle était attendue et elle a eu lieu.
Elle a eu lieu, comme vous le dites très justement. Elle était attendue, elle était prévisible. Elle vient, je le rappelle à vos auditeurs, elle vient seulement 6 mois après les massacres du 7 octobre qui ont fait plus de 1000 morts. C'est dans ce cadre-là que cela s'inscrit aujourd'hui, que cette pluie de missiles et de drones qui s'est abattue, 350 missiles et drones qui se sont abattus.
C'est pas une petite attaque. Hein.
Non, c'est pas une petite attaque. C'est la plus, l'attaque la plus importante qui s'est produite en une seule nuit, hein, en quelques heures simplement, sur Israël. Et c'est bien dans ce contexte-là et dans cette perspective-là qu'il faut replacer ce qu'il s'est passé hier. C'est une attaque massive, c'est un État qui décide d'attaquer un autre État et c'est à cela qu'Israël a dû répondre. La première réaction, c'est aussi une réaction, j'ai envie de dire presque positive, parce qu'on a vu les forces internationales se mobiliser aux côtés et au soutien d'Israël. Je sais qu'on en reparlera.
On en reparlera, évidemment.
Pendant ce plateau aujourd'hui. Et ça, c'est important. C'est un message très important aussi qui est délivré à la communauté internationale, aux habitants d'Israël, au peuple d'Israël. Et j'ai coutume de le dire, lorsqu'Israël se bat, elle se bat pour elle, pour la survie de son peuple, parce que c'est existentiel ce qui s'est passé hier et ce qui se passe en Israël depuis 6 mois. C'est la survie de l'État d'Israël qui est en cause. Et lorsqu'Israël se bat, elle se bat pour elle, mais elle se bat également pour l'ensemble de l'humanité. La menace terroriste en provenance de l'Iran concerne bien évidemment tout l'Occident.
Et on évoquera au cours de cette émission, est-ce qu'il y aura riposte ou pas d'Israël, c'est aussi la question et un enjeu majeur. Mais, et on l'évoquera au cours de cette émission. Patrice Arditi, réaction sur cette attaque dont on parlait sur ce plateau hier.
Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. Il est évident que la survie d'Israël est quelque chose qui nous importe terriblement. Maintenant, c'est effectivement la première offensive directe de l'Iran sur l'État hébreu, mais on ne peut pas quand même mettre de côté le fait que cette offensive, même s'il y a eu des centaines de drones et de missiles, était extrêmement mesuré et qu'il y a eu quand même un certain nombre d'alertes. Je veux dire, dans l'histoire, on voit très rarement des gens qui vont dire à des adversaires, attention, pratiquement à telle heure, on va vous envoyer des drones. On sait très très bien que le dôme de fer d'Israël était capable de réagir, ce qui a été fait. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'on sait maintenant que l'État hébreu a été considérablement aidé par ses alliés. Et tout est là, je crois. Il y a au niveau géopolitique, maintenant, on a l'impression que les pions ont été déplacés. Israël ne savait plus très très bien de quelle manière il pouvait compter sur ses alliés. Bon, les États-Unis, on le savait, puisque c'est eux qui ont alerté l'imminence d'une action iranienne. Mais quand même, on en reparlera probablement tout à l'heure, mais l'offensive également de la Jordanie qui a détruit des drones, le fait que la France soit rentrer, évidemment, non pas en guerre, mais en défense de l'État d'Israël. Alors, pudiquement, on va dire que c'était pour protéger ses installations militaires. Mais enfin, je veux dire, là, les pions ont considérablement bougé. Maintenant, il faut attendre la suite.
Allez, je poursuis le tour de table. Najwa.
Moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire ma consoeur. Et à juste titre, elle a rappelé le contexte. C'est-à-dire qu'on est 6 mois après le contexte post-pogrom du 7 octobre dernier. Pourquoi je dis ça? Parce que pour l'Iran, il s'agit d'une réponse au bombardement meurtrier attribué donc à l'État hébreu en date du 1er avril dernier contre le consulat iranien situé en Syrie et plus précisément à Damas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi insister sur ce contexte et ne pas oublier, surtout pas oublier le 7 octobre 2023 parce que vous avez l'État iranien qui souhaite réduire cela à une réponse donc à une réponse meurtrière de l'État hébreu. Et à juste titre, Patrice Arditi le rappelait, l'Iran a pour habitude de répondre indirectement à l'assassinat de ses hauts dignitaires, en passant notamment par ses alliés entre guillemets locaux, le Hamas ou le Hezbollah au Liban. Tout ça pour dire que quand on parle d'une attaque qui innove, oui, elle est innovante, puisque là, on attaque directement Israël. L'État d'Hébreu.
Je vous donne la parole dans quelques instants, Denis et Naïma, évidemment, et Harold, qui nous fera part de son expertise. Mais je vous l'ai dit, priorité au témoignage, et c'est important. On va retrouver tout de suite Julien Balloul, journaliste et ancien porte-parole des réservistes de Tsahal. Bonjour Julien, vous étiez avec nous hier, quasiment à la même heure. On évoquait cette attaque hier midi. Ben voilà, elle a eu lieu. Et grosse frappe de l'Iran, Julien, plus de 300 drones et missiles, et ce n'est pas rien.
Oui, absolument. La nuit a été extrêmement tendue puisque, à l'inverse, on a l'habitude en Israël des tirs de roquettes.
Alors,
qui arrivent.
On va vous reprendre dans quelques instants, Julien, parce qu'on a un petit problème de liaison avec vous. On va régler ça tout de suite en régie. On vous reprend dans quelques instants, évidemment. Naïma Mfadel, petite réaction.
Moi, je voudrais effectivement réagir à ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, l'Iran ne s'est jamais attaqué à Israël d'une manière frontale, mais toujours via le Hezbollah, donc par procuration, via le Hezbollah ou les rebelles Houthis du Yémen. Ça a toujours été comme ça. Il ne s'est jamais attaqué frontalement. Aujourd'hui, effectivement, il s'est attaqué frontalement parce qu'il ne veut pas perdre la face vis-à-vis de sa population, bien qu'il y ait une contestation, et d'autant plus qu'il y a une contestation, au sein de sa population, avec toutes les manifestations qui ont eu lieu, de la jeunesse iranienne, les femmes contre le voile, etc., et contre toutes les répressions qu'ils subissent. Et puis aussi vis-à-vis du Hamas, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, le Hamas a été soutenu par l'Iran. Alors, ce qui se passe au niveau géopolitique, et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce qui s'est passé aussi, puisque vous avez eu, Israël a pu s'appuyer notamment sur la Jordanie, sur l'Arabie Saoudite et sur les Émirats Arabes Unis, qui l'ont soutenu, et notamment pour éviter aussi, puisque ce que nous ont dit certains experts, c'est que tous ces missiles ont été explosés, les drones aussi, à l'extérieur d'Israël. En fait, ce qui est tombé sur Israël, c'est les débris de ce qu'on a pu entendre. Donc c'est extrêmement important. Et la géopolitique, il ne faut pas l'oublier dans cette région, c'est que vous avez affaire à des pays sunnites, arabes, et les Iraniens qui ne sont pas arabes et qui sont chiites. Donc les Arabes, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, même l'autorité palestinienne en fait, n'ont pas intérêt à ce que le leadership au niveau de la cause palestinienne soit pris par un État chiite qui est leur ennemi. L'ennemi principal d'ailleurs de l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite. Mmh. Et aujourd'hui, moi je voudrais juste vous rappeler ce qu'avait dit le président de la République quand il a voulu mettre en place cette coalition contre le terrorisme et contre les faiseurs de haine et de guerre pour promouvoir plutôt les faiseurs de paix. Tout le monde l'a moqué, et il avait raison. Et je voudrais aussi associer dans ces faiseurs de paix le Maroc qui a été un peu laissé de côté par la France. Aujourd'hui, je pense que le leadership au niveau de la paix et au niveau de la déscalade, en s'appuyant sur les pays arabes qui sont sur cette région, eh bien, je pense que c'est la France qui peut prendre ce leadership.
Et on a retrouvé, merci Naïma Mfadel, on a retrouvé Julien Balloul, donc journaliste et ancien porte-parole des réservistes de Tsahal. Entre-temps, au moment où je vous posais la question, une dépêche vient de tomber et il est important de la signaler. Le président iranien menace Israël d'une réaction plus forte en cas de comportement imprudent d'Israël après l'attaque iranienne inédite menée dans la nuit. Voilà, ça c'est la dernière information qui vient de tomber. Julien Balloul, c'est pas très rassurant évidemment. Votre réaction?
Oui, absolument. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est habitué en Israël à avoir 5, 10, 20, 60 secondes pour aller se mettre aux abris lorsqu'il y a des tirs de roquettes depuis le Liban ou depuis Gaza. Et là, on avait une annonce plusieurs heures avant pour les drones et au moins 12 minutes pour les missiles balistiques, ce qui est extrêmement long. Hein. Et du coup, il y avait une sorte de guerre psychologique qui s'est installée pendant toute la nuit avec Israël qui avait une nuit blanche pour attendre le moment de la sirène en voyant un peu ce décompte qui se rapprochait. Donc, c'est une situation qui était extrêmement étrange, extrêmement inconnu, et puis un sentiment ce matin de très grande fierté. Fierté envers et de remerciement, de reconnaissance envers l'armée israélienne qui a montré sa puissance militaire, qui a su abattre la plupart des missiles et des drones, et un sentiment, c'est très important également, de reconnaissance envers les alliés d'Israël, la France, les États-Unis, la Jordanie, la Grande-Bretagne, qui ont envoyé leurs forces militaires également pour protéger l'État d'Israël. Et c'est vraiment un sentiment qui est important ce matin, c'est le sentiment que nous ne sommes pas seuls. L'État d'Israël a ses alliés, même s'il y a évidemment des raisons géopolitiques, même s'il y a des intérêts géopolitiques, mais le sentiment de ne pas être seul, d'être protégé, et surtout d'avoir mis en échec cette frappe iranienne, c'est un vrai sentiment de fierté ce matin.
Justement, vous avez raison de le rappeler, et cette fois, contrairement au 7 octobre dernier, Israël a évité le pire, et le dôme de fer a parfaitement fonctionné cette fois, et c'est important de le dire, Julien.
Oui, et c'est pas que le dôme de fer, hein, parce que dans les premières heures donc de la soirée, il y avait beaucoup d'avions de l'armée de l'air israélienne avec des pilotes qui étaient dans les airs, et certains drones, ont été interceptés grâce aux interventions des avions de l'armée de l'air israélienne. Donc ce n'est pas que le dôme de fer. Il y a un autre système, il n'y a pas que d'ailleurs le dôme de fer, il y a plusieurs couches de défense aérienne, plusieurs types de missiles anti-aériens qui ont été actionnés. Et là, donc vraiment, on voit, c'est l'ensemble de la défense aérienne, toutes les couches de la défense aérienne, le dôme de fer, les pilotes, etc., tout a fonctionné, sans parler de la coopération avec les alliés qui a été extraordinaire. Donc c'est une excellente nouvelle. Et puis, très important, il faut le souligner, le rôle de la population israélienne, la discipline de la population israélienne, des civils qui savent se comporter, qui savent quoi faire en cas d'urgence, où aller, protéger leurs enfants. Je vais vous donner un exemple tout bête, tout concret. Hier soir à Tel Aviv, on le voit dans votre reportage, hein, certains sont restés dehors. J'avais des amis qui étaient à une soirée. On a appris ce qui se passait. Les producteurs ont envoyé un SMS à tout le monde disant « voilà, il va se passer ça ». Et les gens sont rentrés chez eux, ils ont été responsables, ils se sont mis à l'abri, ils n'ont pas pris de risque. Non. Et lorsqu'il y a eu les sirènes, chacun est rentré. Et c'est aussi grâce à ça que le bilan est bon aujourd'hui.
Julien, la question qui est sur toutes les lèvres du monde entier est maintenant. Et maintenant, le colonel Olivier Rafovitch sera notre invité tout à l'heure à... d'ici quelques instants. Je lui poserai évidemment la question, je ne suis pas certain qu'il me réponde, mais... que va-t-il se passer ? Quel est votre état d'esprit, vous ?
Alors, c'est une grande inconnue parce que visiblement, le gouvernement israélien a l'air décidé de ne pas s'en tenir là parce que c'est tout de même extrêmement grave. C'est la première fois que l'Iran attaque depuis l'Iran l'État d'Israël sur son sol. On ne parle pas d'une attaque sur un sol d'un pays tiers. Donc, c'est extrêmement grave et je pense que l'État d'Israël veut faire passer un message qu'il ne peut pas accepter ceci. Et évidemment, si on s'en tient là, j'ai envie de dire, la page est tournée et on continue, mais on sait très bien que pour l'État d'Israël, la leçon du 7 octobre, c'est quand il y a une menace, il faut s'en occuper, sinon elle va revenir dans quelques années et en pire. Et on l'a vu avec le Hamas le 7 octobre. Et donc je pense que l'État d'Israël veut peut-être aussi saisir l'occasion pour se débarrasser de la menace à plusieurs de ses frontières. Elle s'occupait de la frontière sud. On sait qu'elle a le Hezbollah dans le viseur. Elle veut également faire passer un message important à l'Iran. Donc c'est vraiment cela. Et tout à l'heure, on parlait du fait que c'était la première fois. Donc là, il y avait une armée contre une armée. Pour nous, c'est un peu une bonne nouvelle, entre guillemets, parce que jusqu'à présent, on parlait de conflits asymétriques avec des organisations terroristes qui n'ont ni foi ni loi, qui se cachent au milieu de la population civile. Là, c'est une armée face à une armée. Il y a des règles, c'est plus simple, c'est plus clair. Et le pays qui envoie son armée contre l'État d'Israël peut en payer le prix. Si j'ai envie de vous dire, c'est plus propre, entre guillemets, qu'une guerre asymétrique au milieu d'un terrain urbain.
Et on voit l'évolution de l'Iran, hein, puisque dans un premier temps, l'Iran avait estimé s'être vengé et mettait en garde Israël. Et là, avec cette nouvelle information que je vous donnais, on sent qu'évidemment, l'Iran craint une réplique d'Israël. Là. C'est encore une prise de position encore plus forte. Hein.
Oui, absolument. On voit bien qu'il y a un risque d'escalade. On ne va pas se mentir, on voit bien que l'intervention des alliés d'Israël, que ce soit les États-Unis, la France, la Jordanie, etc., qui sont intervenus cette nuit, c'était aussi pour dire à Israël, on fera en sorte que vous ne preniez pas de coups, que vous ne soyez pas humiliés, mais en échange, il faut s'en tenir là. Et d'ailleurs, Joe Biden a déjà fait passer le message américain à Netanyahou. Je lisais dans un article, il a dit au président israélien, vous avez gagné, prenez cette victoire, gardez-la et passons à autre chose, parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre un embrasement régional au Proche-Orient, certainement pas en année électorale, donc il y a un vrai risque. Et d'ailleurs, un dernier point, peut-être un peu anecdotique, donc vous savez, cette nuit, l'espace aérien israélien a fermé, c'était également le cas en Jordanie et dans d'autres pays pour permettre donc, les interceptions de missiles sans risquer les avions civils. En Israël, les congés scolaires de Pessah, la fête juive, ont commencé vendredi, donc ce week-end, donc c'est l'équivalent des vacances de Pâques en France, si vous voulez. Ce week-end est un week-end extrêmement chargé à l'aéroport de Tel Aviv Ben Gurion, avec des dizaines de milliers de passagers qui entrent, qui sortent. Donc lorsqu'on ferme l'aéroport dans cette période, ça a vraiment des conséquences à la fois économiques, mais également logistiques, etc., etc. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Il y a beaucoup de familles qui sont aujourd'hui dans l'attente, soit certaines qui deviennent d'Israël, soit certaines qui départent d'Israël en vacances. C'est aussi un point un peu compliqué.
Merci beaucoup, Julien Balou. Je rappelle que vous êtes journaliste et ancien porte-parole des réservistes de Tsahal. Et puis, cette nouvelle dépêche qui vient de tomber, l'OTAN qui condamne l'escalade de l'Iran et appelle à la retenue. Denis Deschamps.
Ça, c'est pas étonnant. Le G7 va faire la même chose cet après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU aussi. Ça, c'est une évidence. Moi, je voulais revenir sur justement l'enchaînement des séquences. Tout ça prend l'origine, puisque vous parliez tout à l'heure du contexte, tout ça prend son origine sur une tension larvée plus ou moins aiguë depuis 1979. Pour être très précis, d'une tension larvée, nous sommes passés à un conflit larvé avec ce que l'on a appris, parce qu'on utilise un nouveau terme depuis 4 ou 5 jours, des proxys, c'est-à-dire des États ou des groupuscules qui agissent au nom d'eux. Hein. Donc là, on l'a vu et on voyait, par exemple, que quasiment tous les jours, Israël subissait des envois de roquettes de 30, 40, 50 tous les jours. Maintenant, on est carrément dans un conflit ouvert. Et d'ailleurs...
tous les pays demandent à Israël de ne pas surenchérir. Israël s'est vengé, les États-Unis en tête, ils demandent de ne pas surenchérir. Donc ça va être la question des 48 prochaines heures. Mmh. Donc ce qui est assez important, c'est que effectivement, il a été dit que pour la première fois, l'Iran attaque directement depuis son sol. Là, on est en plein dans le droit international. Et d'ailleurs, le droit international avait déjà été rappelé lorsque Israël avait attaqué cette extension de l'ambassade iranienne à Damas. Là aussi, on attaque un pays, un voisin. Donc là, le droit international est en train de jouer à fond. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voir ce que dit l'ONU. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que cette nuit, l'Iran a rappelé justement qu'ils ont agi en fonction d'un certain article justement du droit international. Je vous le retrouverai tout à l'heure.
51.
Voilà.
C'est là, 51. Du chapitre 7.
Voilà, le fameux chapitre 7 pour se défendre. Donc vous voyez, en fait, chacun a son récit. Israël a son récit, l'Iran a son récit, avec aussi des mouvements de population. En Iran, on en a parlé tout à l'heure pour essayer de soutenir. L'Iran a bien précisé, attention, nous on s'est vengé, maintenant il ne faudrait pas surenchérir. Oui. Mais en attendant, là maintenant, comment va réagir Israël? Comment va interpréter Israël cette année?
Exactement. Page spéciale, édition spéciale dans MeNews The Weekend, évidemment, consacrée à cette attaque de l'Iran sur Israël. Et j'en profite pour vous donner également cette information. La France a assuré la défense de ses bases au Moyen-Orient. Restez avec nous. On continue à commenter, à décrypter la situation au Proche-Orient. A tout de suite. Il est 11h30, merci de nous accueillir en ce dimanche, édition spéciale dans MeNews The Weekend, consacrée à cette attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. Je rappelle, plus de 300 drones et missiles ont été envoyés vers l'État hébreu, c'était hier soir aux alentours de 22h. Pour commenter et décrypter cette actualité, Naïma Mfadel, Najwa El Haïté, Muriel Joaquin Melki, Patrice Arditi, Denis Deschamps et bien évidemment Harold Diman. Je vous ai promis beaucoup de témoignages et c'est aussi la vocation de cette émission, direction Natania. On va retrouver Fabrice. Bonjour Fabrice, merci d'être avec nous dans MeNews The Weekend. Je voulais d'abord vous poser une première question. Comment s'est déroulée cette nuit avec cette attaque de l'Iran?
La nuit a été courte. En fait, hier, dès quasiment la sortie du Shabbat, c'est-à-dire vers 19h30, 20h en Israël, on a commencé à avoir les premiers messages d'alerte. En Israël, on a malheureusement l'habitude de ça. Les abris étaient prêts. La plupart des familles israéliennes, ça fait 6 mois qu'on est en guerre. Donc, dans les abris, il y a déjà de l'eau, il y a déjà de la nourriture, etc. Mais là, c'est vrai que c'était une menace plus sérieuse que d'habitude, j'allais dire. Et vers 22h, 22h30, quand on a su, quand on a eu l'information officielle que des drones, des missiles étaient en route vers Israël, là, il y a eu une attente qui était un petit peu compliquée. Il a fallu d'abord prendre des nouvelles des familles, savoir qui avait un abri, qui n'en avait pas. Certaines familles se sont réunies, etc., etc. Rassurer les enfants pour qu'ils ne soient pas fassés depuis 6 mois. Et puis on a attendu, arriver sur les écrans de télé. Et puis voilà, donc la nuit a été courte et difficile.
Ça ressemble à une véritable déclaration de guerre de l'Iran. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Fabrice?
Alors, moi, ce matin, pour avoir parlé avec plusieurs amis qui vivent ici depuis moins longtemps, on a du mal à se positionner. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un pétard mouillé, volontairement mouillé, que l'Iran a envoyé sur Israël en disant « de toutes les façons, ça ne fera pas de dégâts, mais on va leur montrer qu'on peut ». Ou est-ce que c'est un échec cuisant de l'attaque iranienne ou une réussite parfaite de l'État israélien? On a du mal à se positionner.
Est-ce que vous êtes dans l'inquiétude d'une réplique d'Israël, puisque l'Iran a à nouveau menacé il y a quelques instants, attention s'il y a une réplique d'Israël? Est-ce que vous craignez cette réplique?
Alors encore une fois, je le répète, mais ça fait 6 mois qu'on est en guerre, dans une guerre de survie du pays. L'Iran, ça fait des années qu'ils menacent Israël. Là, ils ont mis une partie de leur menace à exécution. L'impression qu'on a quand même, sans être un expert militaire loin de là, c'est qu'Israël a su répondre et a les moyens de répondre. Ce qui fait surtout peur, c'est un embrasement total de la région. Là, ce serait plus alarmant. Pour Israël même, je crois tout à l'heure, c'était une habitante de Jérusalem que vous disiez, on a entière confiance dans notre armée dans nos boules de fer, qu'Israël a développé avec en plusieurs années. Voilà, ce qui fait peur, ce n'est pas la riposte, ce serait la riposte à la riposte.
Vous craignez l'escalade, en fait, Fabrice, hein, c'est cela. Hein.
En même temps, on la craint, en même temps, on a bien conscience qu'on ne peut pas laisser l'Iran, un pays à 2000 km d'Israël, se doter de la bombe atomique. Parce qu'on sait très bien que dans la liste de l'Iran, en numéro 1, il y a Israël. Donc, en même temps, on craint cette riposte, évidemment, et cette escalade. En même temps, elle serait, je ne vais pas dire souhaitable, parce qu'on ne peut jamais souhaiter une guerre, mais il va falloir, de toutes les façons, trouver un moyen de stopper cette folie iranienne.
Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner malgré cette nuit courte qu'on comprend aisément, Fabrice. Je rappelle que vous êtes habitant de Natania. Harold, est-ce que très concrètement, l'Iran pouvait pénétrer sur le territoire israélien?
Non. Vu la panoplie de défense qui a été déployée, elle ne pouvait pas, avec 350 projectiles, faire vraiment de la destruction massive, ni même minime. Mais si elle avait envoyé encore des nuées de drones, cela aurait pu finir par marcher en certains endroits. Je signale au passage que la technique qu'ils ont utilisée est la même que l'armée russe utilise en Ukraine. Cette espèce de concentration, choc dans un très bref délai. Donc on voit venir, mais on est submergé par le nombre. Mais bon, bien sûr, il y avait de quoi les stopper, mais on ne savait pas s'il n'y avait pas une nuée derrière, ou on ne sait toujours pas si le régime iranien n'a pas en réserve les projectiles pour recommencer.
Ce qui est important, on l'a évoqué au début de cette émission, c'est qu'on n'a pas vu l'attaque du 7 octobre, et là, tout le système israélien a parfaitement bien fonctionner. Alors, et ça, c'est important de le signaler. On l'évoquait justement avec Muriel Joaquin Melkin.
Oui, et d'autant plus que depuis le temps qu'Israël s'exerce à abattre les drones et les missiles de diverses tailles, commence à avoir de l'expertise. Un problème dont on ne parle pas trop, c'est peut-être le prix qui est engagé pour se défendre, parce qu'il est beaucoup plus facile de lancer un gros tube comme ça que de le détecter électroniquement et de l'intercepter alors qu'il avance dans le ciel. Donc la difficulté est là. Donc si Israël voulait bombarder l'Iran, ça, ce serait beaucoup plus facile. Encore faudrait-il se transporter jusqu'au-dessus du territoire iranien, ce qui est le problème actuel du gouvernement israélien. Si on veut riposter, comment ferait-on pour se trouver au-dessus de l'Iran sans passer par la Jordanie et par l'Irak et par l'Arabie saoudite? Ça, c'est un vrai problème.
Les réactions s'enchaînent évidemment, vous le comprenez aisément, et Moscou appelle à son tour à la retenue après les frappes iraniennes visant Israël. Denis Deschamps.
La Chine aussi avait tenu le même discours ce matin. Alors pour compléter la réponse de Harold par rapport à votre question, donc effectivement le 7 octobre, ça n'avait absolument rien à voir comme type d'attaque, absolument rien à voir, alors que là, ce qui s'est passé cette nuit, il ne faut pas oublier qu'Israël est un État en guerre. Il est en guerre depuis des années, des années et des années. Donc là, en fait, pour lui, il n'y a rien de très nouveau, même si c'est frappant pour nous, grand public, de voir 350 vecteurs d'attaque sur un État. Israël est déjà très habitué, il s'est très bien équipé. Ils ont beaucoup de stocks de missiles et pourtant ça coûte cher, enfin des missiles antimissiles en réalité. Donc tout ça, ils connaissent très bien. Et effectivement, Harold a très bien souligné qu'en réalité, la stratégie de l'Iran, c'était la submersion. Essayer de faire passer quelques vecteurs à travers la masse pour essayer de toucher. Cependant, quand on regarde bien en détail, l'Iran n'a pas cherché à frapper Tel Aviv ou Jérusalem. Ils ont cherché à frapper d'autres. D'ailleurs, une base militaire israélienne, mais ils n'ont pas cherché à toucher la population. Donc c'était une représaille, entre guillemets, excusez-moi du terme, mesurée, même si c'est quand même dramatique, parce que c'est une escalade de toute façon. Mais c'est mesuré. Et d'ailleurs, juste après, il y a eu le message de l'Iran en disant « Maintenant, c'est bon, on a réagi. Maintenant, ce serait bien qu'Israël
aient compris que c'était notre réponse et que ça n'aille pas plus loin. Et alors ça, c'est leur discours, bien entendu. Mais surtout, la communauté internationale, je le répète, ne souhaite pas qu'il y ait une escalade. Parce qu'effectivement, comme l'a dit votre invité tout à l'heure, le grand risque, c'est l'embrasement de la région. Et ça ne
les enjeux sont majeurs, là.
Et là, c'est comme une réaction en chaîne. On ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller.
Nageoire réalité.
Non mais c'est tout à fait juste ce que vous dites, parce que force est de constater que l'Iran n'a pas la capacité de mener une troisième guerre mondiale. Parce que j'ai entendu dernièrement, attention, troisième guerre mondiale. Mais l'Iran ne dispose ni du matériel militaire technologique, ni pour l'instant, et on l'espère que ça va durer, de la dissuasion nucléaire. Donc, et là c'est Julien Balloul qui disait... Julien Balloul, et les mots ont un sens, et j'ai retenu ça, il y a une guerre psychologique.
Bien sûr, oui.
Parce qu'on sait très bien que l'Iran est de plus en plus performant en termes de cyberattaques et de cyberespionnage. Et vous voyez les propos...
Et là, c'était des cibles bien précises. Hein,
Oui, là, on est d'accord. Mais il semblerait, après, il faut vérifier l'information, qu'il y ait eu, en même temps que l'envoi des 350... drones et de différents missiles, il semblerait qu'il y ait eu aussi... à vérifier, une cyberattaque qui aurait été organisée par l'Iran à destination des installations électriques israéliennes. Donc cette information est à vérifier.
Et la centrale nucléaire aurait été visée également.
Bah, vous voyez, donc...
Tout ça est à vérifier aussi, hein,
tout
évidemment.
Tout ça est
toutes
également à vérifier. Mais tout ça pour vous dire,
je reviens
à la guerre psychologique, parce que l'Iran sait très bien qu'elle n'a pas les moyens, comme je vous le disais, de mener une troisième guerre mondiale, mais néanmoins de faire perdre les nerfs d'Israël et notamment, je vais vous dire, hein, depuis des mois, on assiste, certes, il y a une guerre entre Israël et l'Iran, mais il y a une guerre officieuse qui s'organise. Israël ne reste pas les mains croisées concernant les cyberattaques. On a appris notamment dans la presse en février 2023 qu'une grande partie des stations essence en Iran ont été cyberattaquées. Donc plus d'accès à l'essence. Et donc quand on dit plus d'accès à l'essence, eh bien, une fragilité économique qui s'ajoute, et Naïma Mfadel le rappelait, parce que à côté de ça, j'ai envie de vous dire, excusez-moi les termes d'être aussi direct, mais vous avez l'Iran qui joue les gros bras pour montrer qu'ils sont l'axe, qui représente l'axe de résistance face à Israël, mais également face aux États-Unis et aux intérêts américains. Au Moyen-Orient, mais au-delà de ça, vous avez en effet l'État hébreu qui ne se laisse pas faire et qui répond également aux cyberattaques, et notamment en essayant de fragiliser aussi l'économie iranienne qui est très très mal en point.
Muriel, vous souhaitiez réagir?
Alors, c'est vrai, vous avez raison, je vous rejoins sur un point. Peut-être qu'effectivement, l'Iran n'a pas cette capacité à déclencher, ou en tout cas à assumer, une troisième guerre mondiale.
On a eu un peu le sentiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont dit, ça y est, voilà, match nul, hein, on a répliqué, on a notre revanche et on s'arrête là. Et là, comme il semblerait que la petite musique soit tout autre, ils remettent un...
Mais la réalité concrète, c'est que l'Iran a des alliés et pas n'importe lequel. Et donc ces alliés-là, eux, ont la capacité à mener une troisième guerre mondiale, c'est le Hezbollah au Liban, bien évidemment, et cette alliance-là est à redouter. Et personne ici sur ce plateau, et surtout personne là-bas, n'est naïf. Ce que tout le monde redoute, c'est effectivement cette alliance terrible et redoutable qui pourrait mener à une troisième guerre mondiale. La Jordanie le sait aussi. Son intérêt, c'est effectivement que la situation s'apaise, parce que sinon elle se retrouverait en plein milieu de cette troisième guerre-là. Et donc, ça... Finalement, le message que je délivrais ici en tout début de votre plateau, Thierry, c'était le suivant. Israël reste et demeure la sentinelle, en fait, dans toute cette situation géopolitique et dans ce que nous voyons depuis hier et depuis le 7 octobre. Israël reste la sentinelle du monde, de l'humanité face à l'obscurantisme islamiste. Et cette formule-là n'est pas qu'une formule. Il y a une réalité derrière. Si effectivement Israël aujourd'hui bénéficie de l'appui et du soutien à l'international, c'est parce que tout le monde a bien compris les risques majeurs d'un embrasement. Et si l'Iran est en train de tester finalement ces alliances qui viennent au secours d'Israël, c'est aussi pour voir quelle serait, dans l'hypothèse d'une attaque massive et dirigée par le Hezbollah, la réaction des alliés d'Israël.
Chacun compte ses troupes. Voilà. Moi, je pense
Et donc, effectivement, on a aujourd'hui cette situation qui est une situation qui est sur le point d'être explosive, avec de toute manière un problème à régler, parce que l'Iran des Mollahs est un poison pour l'humanité. Donc ce problème-là doit être réglé. Il est en train de se régler, mais ça prendra du temps avec la révolution qui se fait en Iran et le formidable courage de ces femmes iraniennes dont on parle, et des jeunes et de la jeunesse iranienne, mais cela prendra du temps. L'autre possibilité pour le régler, c'est effectivement cet embrasement qui pourrait conduire à éradiquer l'Iran des Mollahs.
Je vous donne la parole, Naïma, dans quelques instants, mais je voudrais qu'on écoute le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, qui s'est exprimé dans la foulée d'une réunion de crise. Il a rappelé qu'Israël était militairement prête pour une riposte. On l'écoute.
Hier soir, l'Iran a mené une attaque contre Israël et a lancé plus de 300 menaces de divers types. La menace iranienne s'est heurtée à la supériorité aérienne et technologique de l'armée israélienne, combinée à une forte coalition de combat qui, ensemble, a intercepté la grande majorité des menaces. 99% des menaces lancées sur le territoire de l'État d'Israël ont été interceptées.
Je voudrais qu'on l'écoute également, puisqu'il a évoqué ce risque d'escalade que vous évoquiez vous-même, Muriel.
L'Iran a lancé une attaque directe depuis le sol iranien contre l'État d'Israël. Nous surveillons de près les drones tueurs iraniens envoyés par l'Iran et en route vers Israël. Il s'agit d'une escalade grave et dangereuse. Nos capacités défensives et offensives sont au plus haut niveau de préparation face à cette attaque de grande envergure de l'Iran. Avec nos partenaires, les forces de défense israéliennes opèrent à pleine puissance pour défendre l'État d'Israël et le peuple d'Israël. C'est une mission que nous sommes déterminés et prêts à remplir.
Et même Fadel.
Moi, je pense qu'on donne trop d'importance aux Iraniens. D'ailleurs, vous avez vu, comme vous l'avez dit...
Quand on voit la mobilisation du monde pour éviter cette escalade...
Oui, mais ils ont raison de se mobiliser, effectivement, et d'être dans l'inquiétude, mais vous avez vu que, très rapidement, l'Iran a fait cette déclaration en disant « l'incident est clos
».
Ça veut dire qu'ils sont pas 6 sur 2.
Oui,
et puis moi, je voudrais rappeler...
La deuxième dépêche.
Et puis je voudrais rappeler aussi... Le conflit larvé, on va le dire comme ça, entre sunnites et chiites, il ne faut pas l'oublier. Les Arabes sont sunnites et l'Iran est chiite. L'Iran n'est pas arabe. Ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui. L'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Égypte et même le Qatar d'ailleurs n'auraient aucun intérêt. Les Émirats arabes unis, etc. n'auraient aucun intérêt. Donc aujourd'hui, ça suscite aussi... au niveau de cet échiquier, de nouvelles alliances qui peuvent être extrêmement intéressantes aujourd'hui.
C'est un combat pour le leadership régional.
Exactement. Et c'est ça qu'il faut aussi interroger aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, les Arabes ne laisseront jamais l'Iran prendre le leadership. Et c'est pour ça qu'il faut regretter ce qui s'est passé avec l'intervention américaine en Irak. Rappelons-nous, l'Irak, pays arabe, dirigé par des sunnites.
D'ailleurs, guerre
préventive. Non, mais guerre, disons, préventive sur un mensonge qui a en fait déséquilibré aussi cette géopolitique.
Carrément.
Et je voudrais le dire sincèrement, au détriment de l'Occident finalement, une guerre faite par l'Occident à ses détriments et au détriment aussi aujourd'hui d'Israël et de son positionnement.
Denis.
Je voudrais juste dire un mot par rapport à ce qu'a dit Muriel juste avant. Je souscris à ce qu'elle a dit indiscutablement, mais en réalité, tout dépend de quel côté ou derrière quelle caméra vous êtes en réalité, parce que nous sommes occidentaux, dans nos biais occidentaux, et Israël fait partie de l'Occident. Israël est un pays très développé, d'ailleurs très technologique sur plein de sujets, mais en réalité, vous basculez de l'autre côté de l'autre caméra, derrière l'autre caméra, et en fait, c'est un tout autre discours qui est semblable en réalité. En fait, où ils cherchent leur soutien de leur côté, le monde islamique cherche ses soutiens et va avoir aussi un discours analogue. Donc c'est ça qui est très ambigu en réalité, parce que chacun affirme à vouloir avoir raison. Et quand on évoque par exemple que l'Iran bombe le torse en disant attention au cas où nous on peut encore surréagir, en fait ça me rappelle aussi, et l'image est frappante, lorsque le général Kourilia, le général américain qui est arrivé jeudi, qui s'occupe de tout le Moyen-Orient, là il n'y a pas pire personnage pour bomber le torse, pour dire attention, maintenant nous sommes là, si vous touchez Israël, on va vous toucher. Mmh. Et en réalité, vous voyez bien, c'est deux égos qui s'affrontent, deux orgueils qui s'affrontent, et attention à la surenchère. Dans ce genre de conflit, une petite étincelle peut mettre vraiment le feu.
Et on voit bien la mobilisation internationale.
Oui, tout à fait.
Et on mesure bien le risque.
Pour rejoindre ce que vient de dire Denis, l'attaque du 7 octobre, ce pogrom qui a été fait par le Hamas, avec l'aide des Iraniens, c'était aussi quelque part une réponse contre les accords d'Abraham. Il ne faut pas l'oublier que les accords d'Abraham avaient été cités notamment par la Jordanie, par aussi l'Égypte et puis par le Maroc, et que l'Arabie saoudite était prête à le faire. Donc c'est quelque part pour casser ça et empêcher justement tout ce qui allait susciter ces accords d'Abraham, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était aussi des accords vers la paix et notamment l'idée de deux États.
Non,
je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je disais que force est de constater que l'Iran va pas pouvoir mener à lui tout seul une troisième guerre mondiale. Et votre réponse, c'était de dire oui, mais n'oublions pas les alliés. Et les alliés, bien sûr, le Hezbollah au Liban, le Hamas, et puis les milices en Irak, etc., etc. Mais la troisième guerre mondiale ne sera possible que si la Chine et la Russie,
surtout la Russie,
soit entraînée dans ce conflit-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire qu'à partir du moment, et je ne sous-estime pas, attention, ce qui vient de se passer là, et je m'en expliquerai, mais la troisième guerre mondiale n'est possible qu'à partir du moment où la Russie se mêle de ce conflit-là, la Chine également, et là on aura basculé dans autre chose et dans une troisième guerre mondiale possible. Néanmoins, Et là où je veux insister, je prends très au sérieux ce qui se passe, parce que vous avez dit quelque chose de très juste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël tombe, eh bien nous avons perdu, nous perdrons notre guerre contre l'islamisme et l'obscurantisme. Et là, les pays occidentaux seront d'une vulnérabilité importante. Je n'oublie pas non plus qu'il faut trouver une solution à ce conflit. C'est important aussi de le rappeler. Parce que moi, je suis favorable, et beaucoup de gens sont favorables à la paix. Mais c'est une solution, c'est-à-dire de deux États, la Palestine et Israël. Mais j'insiste, et je le dis d'ailleurs quand il y a des débats, d'ailleurs souvent houleux sur cette question, mais sans le Hamas. Le Hamas est un mouvement terroriste. On ne négocie pas avec un mouvement terroriste.
Exactement, Najwa, dans sa charte, d'ailleurs, il est stipulé la destruction d'Israël. Donc on voyait bien qu'il n'était pas dans une démarche de paix, et notamment dans cette démarche de deux États.
Et Patrice, je vous donnerai la parole juste après. On poursuit le débat, évidemment. On va marquer une pause dans ce mini-news week-end. Naïma, merci pour votre participation, évidemment, et votre éclairage. C'est important de vous avoir également. Arnaud Klarsfeld sera avec nous, qui va vous succéder. Page spéciale dans ce mini-news week-end, vous l'avez compris, à cette attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. A tout de suite. Il est quasiment midi. Merci de nous accueillir. Page spéciale dans ce mini-news week-end jusqu'à 13h, consacrée à cette attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. Je rappelle les chiffres. Plus de 300 drones et missiles ont été envoyés vers l'État hébreu. C'était hier soir aux alentours de 22h. Pour commenter, décrypter, analyser autour de moi, évidemment, Najwa, elle a été avocate. Muriel Wakin Melki, avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. Patrice Arditi est journaliste. Denis Deschamps, géopolitologue. Et j'accueille également avec beaucoup de plaisir Arnaud Klarsfeld, avocat, et c'est important aussi de vous avoir dans Minews Weekend pour vous faire réagir. Mais on va prendre tout de suite la direction d'Israël. On va retrouver Lise Benkemoun, journaliste à Tel Aviv, visage bien connu de notre chaîne. Bonjour Lise Benkemoun. Première question, évidemment, comment s'est passée la nuit ?
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Évidemment, la nuit, elle a été courte. On n'a pas beaucoup dormi. Comme je le disais sur cette antenne ce matin, à Tel Aviv, il n'y a pas eu d'alerte, mais il y en a eu à Jérusalem. Il y en a eu beaucoup dans le nord, il y en a eu beaucoup dans le sud. Donc voilà, et puis on était tous très tendus. On attendait, puisqu'on savait déjà depuis 22 heures que ces drones arrivaient vers Israël, donc on attendait de savoir s'ils étaient interceptés. On savait bien que le Hezbollah et les rebelles houthis au Yémen allaient s'en mêler, ce qui a été le cas aussi. Donc oui, on n'a pas beaucoup dormi. Et puis c'est vrai que c'est la première fois que l'Iran fait une attaque directe contre le territoire israélien, et pas seulement par l'intermédiaire de ses proxys. Et ici, on n'a pas l'habitude de sous-estimer l'Iran, parce que l'Iran, c'est tout de même un grand pays, c'est 85 millions d'habitants, c'est des gens qui tiennent leur parole, qui ont la vengeance tenace et qui sont une véritable menace existentielle pour Israël, parce qu'il ne faut pas se tromper, ils ont pour intention de détruire l'État d'Israël autant que possible. Donc, on a passé une nuit plutôt compliquée. Alors, évidemment, ce matin, on souffle, on va mieux. Là, à midi où on se parle, on est à 99% de tous ces missiles et de ces drones qui ont été interceptés à la fois par les différentes couches de la défense aérienne israélienne et par ses alliés, en l'occurrence là-dessus particulièrement les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi la Jordanie et la France. Et donc, on souffle un peu mieux et on reprend même l'humour. Thierry, ce matin en Israël, il y a beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux pour dire que cette fois-ci, c'est au tour des Iraniens de ne pas dormir. Mais comme je vous le disais, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas du tout ça au sérieux. Il y a eu beaucoup de réunions du cabinet de guerre, il y a eu beaucoup de prises de parole. Il y a de nouveau une réunion du cabinet de guerre aujourd'hui à 15h30 qui est extrêmement importante et qui va décider de la riposte d'Israël à cette attaque de cette nuit, car riposte il y aura forcément, même si nos alliés, à commencer par les États-Unis, voudraient qu'elle soit modérée, voire pas du tout. Ça n'est pas possible que l'État d'Israël laisse passer une telle attaque contre son territoire et ses citoyens sans répondre.
Et on l'a vu, Lise, on l'a évoqué au cours de cette première d'émission. Iran a dit, bon, ok, match nul. C'était en gros, je vulgarise volontairement. Et puis, il y a cette deuxième déclaration, puisque l'Iran pense éventuellement à une contre-attaque d'Israël, et en disant, attention, là, on rigole pas du tout. Et il y a cette deuxième menace là. On voit bien qu'il y a cette escalade, et on le voit bien aussi avec les réactions et toutes ces réactions des différents pays. On a vu Moscou, etc. On a vu l'Angleterre aussi se positionner, la France aussi. Tout le monde craint cette escalade.
C'est vrai, Thierry, mais quelque part, nous avons le même problème que les Iraniens. Quand cette frappe présumée israélienne a eu lieu à Damas, l'Iran a pris un certain temps pour savoir quelle riposte il allait faire, une riposte mesurée, pas mesurée, depuis son territoire, pas depuis son territoire. Et bien là, Israël est quelque part confié face au même dilemme par rapport à ses alliés. Riposte, il doit y avoir. Est-ce que cette riposte, elle doit être sur les installations nucléaires de l'Iran ? Pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce danger qui, je le rappelle, ne menace pas que l'État d'Israël, mais l'Occident tout entier. Est-ce que cette riposte, elle doit être simplement contre le Hezbollah pour essayer de résoudre ce problème du Nord et particulièrement ce souci de tous ces plus de 60 000 habitants israéliens du Nord qui sont toujours évacués et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et là encore, une menace juste à la frontière, très tôt. Est-ce qu'on va faire une riposte également contre les Houthis pour Eilat? Tout ça est très compliqué et ça doit se faire aussi en concertation avec notamment les alliés d'Israël et les États-Unis, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes intérêts que l'État hébreu sur cette riposte. Donc, cabinet de guerre, je vous le disais, peut-être que ça va prendre quelques jours, peut-être que ça va être aussi une riposte mesurée, peut-être une riposte en deux temps. On sent que c'est délicat. Et puis toujours en tête ce dossier des otages. Vous le savez, le Hamas a évidemment et sans surprise refusé la dernière proposition d'accord.
Lise, on va interrompre parce qu'on a un petit problème de connexion. Merci en tous les cas pour votre retour et votre analyse très très précise, évidemment, comme toujours. Arnaud Klarsfeld, j'aimerais vous entendre sur cette attaque de l'Iran. Israël doit répliquer.
Israël répliquera, mais je crois qu'Israël répliquera de manière modérée. Les attaques de drones étaient sur des cibles militaires. Mmh. Essentiellement, il n'y a pas eu de mort. Mmh. Ils ont dû prévenir les Américains qu'ils le feraient. Donc ça reste contenu, je pense. Israël doit répliquer. S'il pouvait S'ils pouvaient détruire les sites nucléaires, c'est-à-dire détruire toute la technologie nucléaire, ce serait utile de le faire et de faire une grande attaque d'envergure. S'ils pouvaient dégommer le régime iranien, ce serait une bonne occasion de le faire. Mais je crois qu'ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre et qu'ils n'ont pas l'appui des États-Unis pour rentrer dans une grande guerre. Donc la République...
Et pas que des États-Unis d'ailleurs, hein.
C'est-à-dire
bah, il y a toute la communauté.
Oui, enfin, le reste, voilà. C'est indifférent. Hein, pour Israël. Enfin, voilà. Le seul allié solide qu'a Israël, c'est les États-Unis. Mmh. Et ils ne feront rien pour déplaire à l'administration qui est en place. Donc, je ne crois pas qu'il y aura une grande réplique israélienne. Il le faudrait, mais à condition que ça soit une réplique utile et qu'on puisse détruire les préparations nucléaires. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Elles doivent être enterrées très profondément. Ils ont besoin aussi sans doute du ravitaillement américain pour aller bombarder l'Iran et faire l'aller-retour. Donc je pense que ça se calmera. Voilà.
Priorité donc au témoignage. Merci Arnaud. On poursuit le débat, mais nous sommes avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal. Merci colonel d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la situation au moment où on se parle, colonel ?
Alors nous parlons, encore une fois, nous sommes après donc cette nuit où plus de 300 missiles de croisière, missiles balistiques et drones lancés d'Iran, du Yémen, d'Irak, ont voulu frapper Israël. Et la majorité, je l'ai dit, la majorité des missiles ont été interceptés. Aucun drone et aucun missile de croisière n'est rentré en territoire israélien. Il y a eu ce matin des attaques du Hezbollah à la frontière nord qui sont déconnectées de la frappe iranienne, en tout cas dans son amplitude. Mais alors nous parlons, nous sommes donc après cette attaque iranienne, après l'interception de 99% des missiles et drones iraniens, avec l'aide, encore une fois, de nos alliés et de nos amis, que nous remercions, entre autres, la France. Et nous sommes toujours dans cette situation, dans un Moyen-Orient toujours extrêmement sensible et tendu.
Le point important, vous le signalez, colonel Rafovitch, c'est que contrairement au 7 octobre, la défense israélienne a parfaitement bien fonctionné là, hier soir.
Les deux événements sont tout à fait non comparables, et dans leur mode opératoire et dans les résultats. Mais il est clair, effectivement, que le préparatif était intense pour faire face à cette menace iranienne. Il faut savoir que l'armée israélienne et les forces de défense anti-balistique et anti-aérienne israélienne, depuis des années, se prépare à ce type de scénario. Et hier soir, nous avons fait face à ce scénario pour de vrai. Et je voudrais encore une fois ici saluer les pilotes de l'aviation israélienne de chasse, les pilotes de F-15, de F-35, de F-16, et également les pilotes de pays amis qui ont participé à cette opération de défense et de protection de l'État d'Israël. Il faut également dire qu'il y a des pays aux alentours, dont je ne voudrais pas dire le nom, qui ont également joué un rôle dans cette opération contre l'attaque iranienne. Et tout cela réuni nous met dans une situation où nous devons toujours, comme vous voyez, faire face à des menaces existentielles. Et si vous me permettez, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Il y a eu des gens, des bruits un peu partout, sur fond du conflit avec le Hamas, qui ont demandé à des gouvernements d'arrêter, de cesser d'envoyer des armes ou des composants militaires à Israël. Vous voyez bien qu'Israël fait toujours face à des menaces comme la menace iranienne, et que dans ces menaces-là, il y a besoin de dômes de fer, il y a besoin de la fronde de David, il y a besoin de système Arrow, flèche 3, et tout cela nécessite également des collaborations et des coopérations.
Et donc, Arnaud Clarsval, que vous connaissez, et notre invité a une question à vous poser.
Oui, je voudrais poser à mon ami Olivier, que je connais depuis plus de 20 ans, la question suivante. Il y a une grande partie de l'extrême gauche, et pas simplement l'extrême gauche, qui fait passer Israël pour le Goliath, et les Palestiniens et les pays arabes pour des Davids. Est-ce qu'il peut rappeler à l'auditoire français, disons, la position géostratégique d'Israël, et rappeler qu'Israël est toujours un Goliath musclé, un David musclé, c'est vrai, et intelligent, mais qu'il reste quand même un David face aux pays arabes qui sont vraiment les Goliaths et qui sont assis sur un océan de richesses et de masse humaine.
Colonel Rafovitch.
D'abord, je voudrais vous dire très brièvement que, sans donner de détails, il y a eu des pays dans le Moyen-Orient, qui sont des pays moyen-orientaux, donc arabes, qui ne sont pas avec l'Iran,
bien sûr,
et qui voient l'Iran comme une menace existentielle pour eux aussi. C'est très important aussi de dire, dans le conflit que nous avons avec le Hamas, que nous ne sommes pas en guerre avec les Palestiniens. Et si, malheureusement, il a fallu cette attaque iranienne pour prouver qu'il y a des intérêts communs entre des pays arabes et l'État d'Israël ou des pays du monde face à la menace iranienne, on en est ici la preuve. Encore une fois, l'Iran, le régime iranien, pas les Iraniens, encore une fois, il faut faire aussi la distinction, le régime iranien des Mollahs est un régime qui, depuis des années, finance, arme ce qu'on appelle en anglais des proxys, c'est-à-dire des agents terroristes, pratiquement des proto-États comme le Hezbollah au sein du Hezbollah ou les Houthis qui ont pris presque d'assaut le Yémen. Je ne parle pas des milices Kataeb Hezbollah qui se trouvent en Irak, qui elles aussi ont participé aux attaques contre Israël. Et à un moment donné, il va falloir que le monde aussi voit la menace iranienne, non pas seulement comme un problème israélien, mais comme un problème international. Et le fait que des pays, durant la nuit, se sont ralliés à l'action contre la menace iranienne, contre les lancements de drones, de missiles balistiques et de missiles de croisière contre Israël, qui ont d'ailleurs traversé d'autres pays, est une preuve de cette conjonction d'intérêts. Et pour rappeler juste un mot, pour faire sourire, parce qu'on peut aussi sourire parfois durant les guerres, c'est que c'est vrai, nous sommes David, mais David, nous n'oublions pas, a tué Goliath.
Harold Liman.
Oui, j'avais une question un peu technique. Alors, les interceptions ont eu lieu assez près de la frontière israélienne pour beaucoup, parce qu'on a vu des projectiles au-dessus de Jérusalem. Alors, à quoi cela est dû? Il y a quand même eu de l'activité dans le ciel israélien.
Ce que vous avez vu dans le ciel israélien, ce sont le tir et l'arrivée de missiles balistiques qui, eux, ont pénétré un territoire israélien et qui ont été détruits dans les cieux, dans les airs israéliens. Il faut savoir que des missiles ont également été projetés vers Jérusalem, au-dessus de la mosquée Al-Aqsa. On a des images, d'ailleurs.
Oui.
Et au-dessus de la Knesset. Vous savez, Jérusalem est une grande ville, mais aussi, nous sommes dans des petites dimensions. Et on a tout fait pour que les destructions se fassent en vol, loin des zones urbaines et zones habitées. Maintenant, pour ce qui est des drones, c'est votre question, et des missiles de croisière, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait la technologie, un missile de croisière est un missile qui prend plus de temps parce qu'il parcourt le terrain en suivant la topographie du terrain, les montagnes, les collines, les montées, les descentes, donc ça lui prend plus de temps. Et ce sont les missiles de croisière, cruise missiles, et les drones qui ont été éliminés, détruits en dehors de l'État d'Israël, au-delà des frontières d'Israël. Par contre, des missiles ont réussi à pénétrer et là ont été détruits en territoire israélien. Il y a quand même eu, une base aérienne dans le sud, la base de Nevatim, qui a été légèrement touchée. Mais on a montré également des images que nos avions ont continué à décoller et à atterrir des F-35 sans problème dans cette base qui avait été un peu touchée.
Colonel Rafovitch, dernière question. L'Iran estime s'être vengé de l'attaque du consulat de Damas et vous met en garde. Alors, je vous pose la question. Je suppose que vous n'allez pas me répondre, mais est-ce qu'Israël va répondre?
D'abord, je voudrais juste vous dire que ce n'est pas un consulat ni une ambassade. C'est un bâtiment à côté, qui était en fait le bâtiment qui servait de centre de commandement et de contrôle des gardes de la Révolution en charge de la coordination des actions violentes, criminelles, meurtrières du Hezbollah et du Hamas venant de Syrie et du Liban. Je ne sais pas qui a fait cette attaque, personne ne l'a revendiqué, en tout cas pas Israël, mais ce n'est pas une ambassade ni un consulat, en tout cas ce n'est pas un endroit où on servait, je crois, ni des passeports, ni des éléments diplomatiques, mais on préparait des attaques, entre autres contre Israël. Et les gens qui ont été tués sont des gens qui ont été directement impliqués dans des attaques avec le Hezbollah, avec le Hamas contre Israël. Et d'autres d'ailleurs.
Et donc je vous pose la question, quelle va être l'attitude d'Israël évidemment ?
Vous avez vu notre attitude cette nuit, nous avons réagi par la défense, la protection de tout l'État d'Israël, de tous les Israéliens. Là, je voudrais vous rappeler que beaucoup de missiles ont cherché à toucher les régions où vivent des Bédouins, beaucoup de Bédouins israéliens. D'ailleurs, une petite fille bédouine a été touchée par l'attaque iranienne. Et Israël, aujourd'hui, fait un état des lieux après cette attaque. Et après, disons-le avec quand même de l'humilité, avec un taux extrêmement satisfaisant de réussite dans les interceptions, puisqu'on est à 99% d'interceptions de missiles, de drones et de missiles de croisière, bien entendu, avec la collaboration, la coordination et l'aide de nos alliés, de nos amis. Et je tiens, puisque je suis sur une onde d'une télévision française, à remercier la France et les Français pour leur action dans le cadre de la menace iranienne pour la défaire et pour faire que Israël et toute la région ont pu continuer et continuent aujourd'hui à vivre normalement malgré cette menace qui a eu lieu cette nuit.
Merci beaucoup, colonel Rafovitch. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Minnews Weekend. Je vous l'ai dit, priorité également au témoignage. On va retrouver Manu, qui est habitant à Jérusalem. Bonjour, Manu. Quel est un petit peu votre état d'esprit? Comment s'est passée votre nuit, serais-je tenté de dire, après cette attaque?
Alors, un peu comme tous les Israéliens, on a effectivement appris hier soir à 22h qu'une salve de drones allait arriver sur Israël. Rendez-vous compte, 250 ou 350 missiles, des drones et des missiles qui arrivent sur votre pays. Vous avez quelques heures pour vous préparer à ça. Effectivement, l'angoisse était là, le stress était là, mais on savait qu'on avait des gens en commande. On a senti tout de suite que le commandement intérieur prenait les choses en main. On a bien appliqué les consignes qui nous étaient demandées et on savait parfaitement qu'on était entre de bonnes mains. Effectivement, après, la suite de la nuit a été, comme vous l'avez bien évoqué ce matin sur votre antenne, des explosions très très importantes ont eu lieu à Jérusalem aux alentours de 2h du matin, comme on en a rarement entendu malheureusement. Dans le ciel, des étoiles filantes, des drones, on ne savait pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, on a vu beaucoup de mouvements aériens. Et puis évidemment, ces sirènes qu'on a malheureusement l'habitude d'entendre maintenant dès qu'on a une alerte, qui nous demandait de nous rendre dans nos abris, avec évidemment, vous pouvez comprendre tout le stress que ça peut avoir, les enfants qui sont un peu stressés, qui étaient un peu angoissés aussi. Et je vous cache pas aussi que les adultes aussi l'étaient. Maintenant, on savait pertinemment qu'on avait une armée qui était forte. On fait confiance en notre gouvernement, on fait confiance en notre armée qui est très forte. On est un peuple de croyants et on a surmonté ça. Et on va surmonter le reste.
Manu, la question qui est sur toutes les bouches, évidemment, on l'évoque depuis le début de cette émission, c'est l'escalade et la réplique d'Israël. Est-ce qu'on peut penser qu'Israël va répliquer ?
Alors moi, je ne suis pas spécialiste politique ni militaire, mais en tout cas, c'est une évidence qu'on ne pourra pas laisser faire et laisser les choses en l'état. Encore une fois, on est une population résiliente, on a un peuple qui a un moral très très haut, on a une entière confiance en notre armée, en notre gouvernement, on sait qu'ils font les choses bien et on sait pertinemment qu'ils vont réagir de façon tout à fait respectable et on croit en eux, on croit en l'avenir et aussi on croit en Dieu.
Merci Manu d'avoir accepté de témoigner dans notre
Merci
émission
à vous, très bonne journée.
Et bon courage malgré le contexte. Réaction Patrice Arditi.
Merci beaucoup. Bon, il y a plusieurs petites choses. On a beaucoup parlé de Troisième Guerre mondiale. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu deux faits d'importance qui auraient pu déclencher une guerre mondiale en 67 et en 73 au niveau d'Israël. Alors on a l'habitude, lorsqu'il y a un conflit et lorsqu'il y a évidemment des combats, de parler de guerre. Faut quand même pas exagérer. On n'en est pas là. On parle d'escalade. Il faut rappeler quand même, et on l'évoquait il y a un instant, que tout a démarré avec cette action des Israéliens sur le consulat français en Syrie. Enfin, un consulat.
C'est pas un consulat. Tu connais Rafovitch, j'ai apporté la précision. Voilà, c'est pas un consulat. J'ai commis l'erreur. C'est pas un consulat.
C'est l'annexe
l'annexe, c'est l'annexe d'un consulat.
L'annexe d'un consulat.
Ça peut être vu des deux manières.
L'ambassadrice.
Moi, je suis partial, je suis israélien aussi. Mais je peux considérer aussi qu'on peut le voir comme une annexe dépendant du consulat. Mais avant de tirer, ils ont attendu que le consul sorte du bâtiment.
L'ambassadrice israélienne ce matin disait qu'il n'y avait aucune confirmation de frappe israélienne, quelle qu'elle soit, et que de toute façon les deux gradés qui avaient été éliminés, si je puis dire, n'avaient rien à voir avec les Iraniens, bien que quand même c'était des hauts gradés des gardiens de la révolution. Alors on parle de guerre mondiale, on n'en est pas là. Il faut quand même rappeler que si l'ONU avait condamné l'action des Israéliens sur le consulat, sur ce bâtiment qui est une annexe sans être une annexe, l'Iran n'aurait probablement pas tenté une offensive de cette envergure. Et il faut rappeler quand même que les États-Unis, la France et l'Angleterre ont empêché justement cette condamnation. Et tout est parti de là. Alors au niveau de l'escalade, bien entendu, on est dans une partie de poker meurtrière, bien entendu. Mais au niveau de l'escalade, qu'est-ce qu'on craint? On sait très très bien que l'objectif depuis des années des Israéliens, c'est de se débarrasser du programme nucléaire iranien. Est-ce que là, c'est le moment? Je ne pense pas. Il y a un certain nombre de personnes extrêmement spécialistes que j'écoutais cette nuit sur diverses radios disaient que, en principe, la riposte devrait être extrêmement sévère, ne pas toucher le territoire iranien, mais quelque chose qui importe à l'Iran. Et c'est la raison pour laquelle on a cité le Hezbollah. Et ce qu'on peut craindre, effectivement, c'est que Israël frappe durement le Hezbollah, ce qui correspondrait à une gifle monumentale sur les Iraniens.
Allez, avant de partir en pause, je vous donnerai la parole juste après, Arnaud, c'est promis. Vous montrez ces images dans les rues de Téhéran. Évidemment, plusieurs milliers d'Iraniens sont sortis célébrer cette attaque hier soir. Ils ont brandi des drapeaux iraniens et du Hezbollah libanais sur la place Palestine dans le centre de la ville, avec des mots, évidemment, mort à Israël, mort à l'Amérique, ont-ils scandé. Donc c'était hier soir dans les rues de Téhéran. On va marquer une pause, on poursuit cette page spéciale avec mes invités dans quelques instants. Évidemment, on abordera l'aspect réaction politique sur notre sol, l'aspect politique international, et on commentera tout ça avec nos invités, évidemment, et avec Arnaud Klarsfeld, qui a gentiment accepté notre invitation. À tout de suite. Soyez les bienvenus, merci de nous accueillir. Dernière ligne droite pour cette page spéciale consacrée à cette attaque sans précédent de l'Iran contre Israël. Toujours avec moi pour commenter cette actualité, Najwa El Haïté, Muriel Wakin Melki, Patrice Sarditi, Denis Deschamps, Harold Iman, évidemment notre spécialiste des questions internationales, et Arnaud Klarsfeld. Arnaud, je me suis engagé, vous souhaitiez réagir aux propos tenus juste avant cette pause publicitaire sur...
Non, je voulais marquer par Patrice Sarditi. Mon approbation avec ce qu'a dit... Monsieur Patrice Arditi, je suis tout à fait d'accord qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale comme il pouvait y avoir, en avoir en 73. En 73, il y avait deux blocs qui s'affrontaient, l'Union soviétique et les États-Unis. Et à l'époque, d'ailleurs, toutes les guerres, Israël n'a jamais pu les gagner tout à fait. Israël aurait pu marcher jusqu'au Caire ou marcher jusqu'à Damas en 73. Israël a dû s'arrêter au kilomètre 101 dans le Sinaï. D'ailleurs, c'était une bonne chose parce qu'après, il y a eu la paix avec l'Égypte qui est extrêmement précieuse pour Israël. Ici, on peut le constater que la Russie a une attitude tout à fait conciliante avec Israël. Elle appelle à la retenue. En 73, elle appelait quasiment à la destruction de l'ennemi sioniste. Donc les choses ont changé, mais Israël ne se disputera pas avec son seul allié solide qui est l'administration américaine. Et l'administration Biden veut ce que veut toute administration américaine, une seconde administration Biden, et sans doute qu'elle estime que s'il y a un conflit qui est généralisé ou une guerre avec l'Iran, eh bien Trump dira sous under my watch, il n'y avait pas l'Afghanistan, il n'y a pas eu l'Ukraine, il n'y a pas eu Gaza, il n'y a pas eu l'Iran, et Biden risque de perdre des voix, donc il veut plutôt apaiser la situation plutôt que laisser Israël aggraver ou rendre justice à sa population.
On va évoquer dans quelques instants les réactions de politique internationale, mais on va se recentrer sur les réactions politiques françaises. Elles sont nombreuses, évidemment. On voit tout cela avec Élodie Huchard et on poursuit le débat avec nos invités. Élodie Huchard.
Beaucoup de réactions dans la classe politique et internationale, à commencer par celle du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'exprime sur les réseaux sociaux pour dire ceci. Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité. Exactement le même son de cloche du côté du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il condamne fermement cette attaque et il explique qu'en décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. Il ajoute que la France réaffirme son attachement à la sécurité d'Israël et l'assure de sa solidarité. Du côté de l'exécutif, on tente aussi de préciser l'implication de la France, expliquant qu'en Jordanie et en Irak, la France a des bases militaires parce qu'elle est engagée sur place dans la lutte contre le terrorisme, et explique que des drones iraniens ont survolé ces bases militaires, donc que des moyens militaires ont été engagés pour neutraliser ces drones, tout en précisant qu'il s'agit d'un très petit nombre de drones. Et puis une réaction internationale, celle de Joe Biden. Je viens de rencontrer mon équipe de sécurité nationale pour faire le point sur les attaques de l'Iran contre Israël. Notre engagement envers la sécurité d'Israël contre les menaces de l'Iran et de ses mandataires est à toute épreuve, dit-il.
Voilà, c'était le point sur les différentes réactions politiques avec Élodie Huchard. Donc Emmanuel Macron a réagi, mais c'était ce matin vers 10h, 10h20, 10h23, 10h25. Il n'a pas réagi tout de suite, hein. On s'attendait à ce qu'il réagisse un petit peu avant peut-être, Muriel.
Oui, alors les réactions du président Macron, les réactions du ministre Séjourné sont toujours un peu, nous surprennent toujours un petit peu. Soit
le ministre Séjourné avait réagi un peu avant, voilà. Oui, hein. Mais Emmanuel Macron un peu plus après.
Ceci étant, on est toujours un peu dans, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre en fait, hein, vis-à-vis de leurs réactions. Moi, ce que je considère comme étant la menace existentielle pour Israël, je pense que c'est perçu de la même manière par la France, mais ce que je sais, en revanche, de manière absolument certaine, c'est que l'Iran est une menace terroriste pour la France. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et donc, la réaction du président Macron, la réaction du ministre Séjourné sont finalement assez logiques et totalement justifiées par les intérêts français vis-à-vis de ce qui se passe avec l'Iran et vis-à-vis de la menace que représente l'Iran pour la France. Donc il faut effectivement qu'on ait une position de la France qui soit très claire et très ferme par rapport à la menace iranienne. Encore une fois, je le dis, il s'agit d'une menace terroriste majeure pour la France. C'est ça que représente l'Iran sur l'échiquier international. Et pour la France et pour le reste du monde.
Najwa, elle a été. On aurait pu s'attendre à une réaction plus rapide, peut-être d'Emmanuel Macron, ou il est dans le tempo, selon vous?
Bon, en tous les cas, la réaction est là. Hein, voilà, mais elle condamne. Enfin, le président de la République a condamné fermement cette attaque, ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Mais moi, je rebondirais plutôt sur ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que, et je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que. Moi, ce qui m'a interpellée dans les propos du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est cette possibilité de négocier avec le Hamas pour trouver une solution qui mène vers la paix. Mmh. Moi, ça me dérange. Ça me dérange fondamentalement. Parce que vous ne pouvez pas comparer un État démocratique et un mouvement terroriste. On ne peut pas négocier, je suis redondante, mais on ne peut pas négocier avec un mouvement terroriste. Ça, ce n'est pas possible et ce n'est pas entendable. Par contre, et je me répète encore, qu'on soit favorable, bien sûr, à une solution de deux États, mais ça ne peut pas se faire avec le Hamas. Ça ne peut pas se faire avec le Hamas. Donc, c'est pour ça, par moment, j'étais en tous les cas interpellée par les propos du ministre des Affaires étrangères qui ne datent pas de si longtemps. Donc, je tenais à le souligner.
Et je suis entièrement d'accord avec vous. Je me permets juste
je vous en prie,
un instant par rapport à ça. Je suis complètement d'accord avec vous. On a une réaction du ministre Séjourné qui nous interpelle. On ne négocie pas avec les terroristes. La France le sait. Elle le pratique aussi. Il n'y a aucune raison pour que Israël se mette à négocier avec les terroristes. Et la solution de deux États, le Hamas n'en veut pas. Personne aujourd'hui, on est tout à fait d'accord. Et j'en termine avec ça. Alors la réaction aujourd'hui du ministre Séjourné par rapport à la défense d'Israël et au fait qu'il faut être au soutien d'Israël, très bien, c'est encore une fois, c'est cohérent, c'est logique, ça va dans les intérêts de la France parce que l'Iran représente une menace majeure pour la France en termes de risques terroristes. Elle est tout en haut de l'échelle dans les risques terroristes en France. On le sait, c'est la priorité aujourd'hui pour le gouvernement français de lutter contre cette menace terroriste. Mais pour autant, je n'accorde pas énormément de crédit aux propos du ministre Séjourné. Je n'y crois plus, en fait, pour être clair.
Réaction également, je vous donne la parole.
On peut négocier avec les
terroristes. Je vous donne la parole tout de suite, mais réaction importante quand même. Ça vient de tomber, celle du pape François. Le pape François qui a donc réagi, et je lis, je lance un appel pressant pour que cesse toute action pouvant alimenter une spirale de violence risquant d'entraîner le Moyen-Orient dans un conflit encore plus grand. C'est ce qu'il a déclaré à l'issue de sa traditionnelle prière dominicale en public. Place Saint-Pierre, réaction.
Si, on peut négocier avec les terroristes, puisqu'Israël a négocié avec le Hamas, l'argent venait du Qatar. Oui. Israël négocie la libération des otages par intermédiaire, mais négocie.
On a vu le résultat.
Enfin, je ne défends pas le Hamas, j'ai arrêté les gens du Hamas quand j'étais à l'armée. Mais Israël négocie avec le Hamas de manière indirecte pour obtenir la libération des otages, mais le Hamas est attaché à la destruction de l'État d'Israël, donc il peut y avoir des négociations qui sont des négociations conjoncturelles, mais il ne peut pas avoir de négociations structurelles avec une organisation qui est vouée à la perte d'Israël. Mais il est évident qu'il y a des négociations et qu'il y a des prises de parole entre les gens. Voilà, ça c'est évident.
Le ministre, il a tenu des propos qui sont uniquement diplomatiques, c'est pour calmer les tensions.
Mais les propos quand même de les propos du ministre des Affaires étrangères sur un boycott d'Israël sont plus problématique pour ceux qui sont attachés à Israël.
C'est évident, et même
pour la France, parce que les gens comprennent bien en France que la vraie menace, c'est la menace islamiste, bien plus que la menace russe. Les gens n'imaginent pas les troupes russes rentrant à Paris, mais ils imaginent très bien, comme au Bataclan, les islamistes massacrant les Français.
Partout. C'est la raison pour laquelle on peut être quand même surpris que la France, elle a mis du temps, on va dire qu'elle avait quand même aidé l'État hébreu cette nuit, mais je pensais vraiment que par, je m'excuse du terme, trouille, et puis élection à suivre, on n'allait pas tellement se mouiller. Alors que les Anglais se sont mouillés et ont même affirmé qu'ils avaient détruit par l'aviation un certain nombre de drones.
Je vous ai dit, priorité au témoignage, on poursuit le débat, évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, mais priorité au témoignage aux Israéliens, évidemment, qui sont sur place. Pascal Saadoun, habitant d'Ashdod, bonjour Pascal Saadoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Évidemment, il nous semblait important, après ce qui s'est produit le 7 octobre, de vous donner la parole également, après cette attaque de l'Iran, hier soir, aux alentours de 22h. Quel est votre état d'esprit, Pascal ?
Ben nous, cette nuit, on n'a pas trop dormi, on n'arrêtait pas de regarder le ciel et d'entendre des boum, boum, boum sans arrêt. C'était la guerre des étoiles dans le ciel. On voyait des boules de feu de partout au-dessus de notre tête. Et voilà, quoi. Donc, c'est depuis le 7 octobre en Israël, on n'arrête pas d'être sous la pression des terroristes, que ce soit du Hamas ou de l'Iran. Et bon, on en a un petit peu marre, quoi.
Est-ce que vous craignez l'escalade, ce dont on parle depuis le début de cette émission spéciale sur notre antenne ?
Eh ben, on craint pas l'escalade, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut couper la tête du serpent. Le serpent, c'est l'Iran. Elle finance le terrorisme à travers le monde. C'est elle qui finance principalement le Hamas, dont on est victime en première ligne. Et il faut à un moment ou à un autre, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, il faudra lui couper la tête. Ils n'arrêtent pas de nous menacer sans arrêt qu'ils veulent détruire Israël. On a le droit de vivre comme tout le monde. Et à un moment ou à un autre, il faut les stopper. Donc ils arrêtent.
Donc Israël doit répliquer là, à cette attaque.
Le peuple israélien, et j'en parlais ce matin avec de nombreux Israéliens, le peuple israélien est à fond avec Benjamin Netanyahou pour riposter. Et c'est le moment où jamais, justement, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On n'a pas attaqué l'Iran, c'est l'Iran qui nous a attaqués. C'est comme le Hamas nous a attaqué le 7 octobre, on a le droit de se défendre comme tout pays aurait fait à travers le monde.
Et tout le peuple israélien est derrière son Premier ministre au jour d'aujourd'hui ?
Tout le peuple israélien, que ce soit des religieux, non religieux, des gauchistes ou quoi que ce soit, on est tous avec le Premier ministre pour qu'il riposte. Et très vite, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont balancé plus de 300 missiles. Demain, ils vont nous balancer, un beau jour, ils vont se réveiller, ils vont nous balancer la bombe atomique. Et on n'aura plus le temps de riposter, on n'aura plus le temps de rien faire.
Merci Pascal Sadoun pour ce témoignage. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Minnews Weekend. Muriel, vous souhaitiez réagir?
Oui, alors moi, ce que je voudrais.
Parce que tout le peuple israélien est derrière le Premier ministre.
Je ne suis pas certaine que tout le peuple israélien soit derrière le Premier ministre, mais en revanche, ce dont je suis sûre, c'est que tout le peuple israélien est derrière son armée, derrière ça. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, je précise que ce ne sont pas des projectiles qui ont été envoyés sur Israël. Hein. Il ne s'agit pas de simples projectiles, il s'agit de drones tueurs. C'est de ça dont il s'agit.
Et des missiles balistiques. Oui. Peuvent donc, une tête nucléaire. Hein.
Oui, attention. Donc ce sont des choses qui sont à visée mortifère avec une intensité terrible, puisqu'on a plus de 300 envois. Voilà, donc il faut avoir ça en tête. Si un seul de ces missiles était tombé en Israël, il y aurait eu des dégâts humains absolument catastrophiques. Il ne faut pas l'oublier.
Ils ont visé le désert, surtout.
Oui. Hein. Non, pas que.
Ils ont visé surtout le désert.
En tous les cas, s'il pouvait y avoir...
S'il pouvait y avoir une attaque israélienne qui détruise les sites nucléaires iraniens, Mazel Tov, comme on dit. Mais c'est pas possible. Ou c'est pas possible, ou ils peuvent pas le faire, ou alors les Américains peuvent pas le faire, et ils le feront pas sans l'appui des Américains. Donc le problème est quasiment réglé. Israël ne fera rien... sans l'accord de l'administration américaine. Et à long terme, ils ont raison, ils ne peuvent pas se disputer avec leur seul allié. Ce que je disais à Olivier Rafovitch est vrai, Israël est toujours le David et les gens ne le comprennent pas, c'est un tout petit État, il y a 9 millions de Juifs, il y a 22 États arabes, il y a 1,5 milliard de musulmans et il y a heureusement la protection américaine. Israël a une armée puissante, mais elle dépend aussi de l'aide américaine.
Alors justement, je vous donne la parole juste après, oui, mais pour vous parler de la position des États-Unis, on va retrouver Fanny Chauvin, qui est notre correspondante permanente aux États-Unis, donc justement qui nous rappelle la position des États-Unis.
Joe Biden a prévenu Benjamin Netanyahou. Les États-Unis ne participeront pas à une opération offensive en Iran. Le président américain veut absolument éviter une escalade, une contagion du conflit dans la région. Et son message est donc clair. Il appelle à la retenue tout en voulant assurer la sécurité de son allié israélien. Et on a appris que lors de cette attaque iranienne, les États-Unis avaient intercepté plus de 70 drones et au moins 3 missiles, des missiles interceptés par des bateaux américains stationnés à l'est de la mer Méditerranée. Il faut dire que ces derniers jours, Washington, à la vue d'une attaque iranienne imminente, avait renforcé ses capacités militaires dans la région. Alors, Téhéran a mis en garde les États-Unis. Il leur demande de rester à l'écart, sous menace d'une riposte. Joe Biden reste donc vigilant et appelle et convoque une réunion de ses homologues du G7 ce dimanche.
Fanny Chauvin, notre correspondante permanente aux États-Unis. Najwa Valaïté, vous souhaitiez réagir?
Denis Deschamps, tout à fait, par rapport aux propos qui ont été tenus par mon confrère Arnaud Klarsfeld. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit quand même. Quand je dis qu'il n'y a pas de négociation possible avec un mouvement terroriste, oui, je le redis. Pourquoi? Parce que moi, je ne parlais pas de négociation conjoncturelle, voyons. Je ne parlais pas, d'ailleurs, le ministre n'a pas parlé d'une négociation conjoncturelle dans le cadre de la libération des otages détenus par le Hamas. Je ne suis pas non plus naïve, je sais comment ça se passe, en effet, avec cette possibilité de négocier de manière conjoncturelle par rapport à des conflits dans le monde. D'ailleurs, le Qatar est un des États qui joue diplomatiquement, entre guillemets, avec le Hamas pour calmer les choses. Donc moi, je ne suis pas naïve de ça. Mais je reviens sur les propos du ministre des Affaires étrangères où il a été très clair. Lui, il disait que la solution pour enfin trouver une solution au conflit israélo-palestinien passer par eh bien des discussions avec le Hamas, et ça ce n'est pas entendable. Ensuite, j'en terminerai par rapport aux États-Unis. Je rebondis sur sur ce qui vient d'être dit là, côté américain. C'est-à-dire, en effet, vous avez un Joe Biden qui estime qu'il ne faut pas aller vers une offensive, enfin une opération offensive contre l'Iran. Mais à côté de ça, on est en période électorale. Vous avez un Donald Trump qui parle de faiblesse. Des États-Unis, oui, il est dans son rôle, en effet, en tant que candidat.
Encore pas, vous avez raison de le rappeler aussi.
Et donc, c'est important aussi de le rappeler en disant, eh bien, moi, si j'avais été président des États-Unis, ça ne se serait pas passé comme ça avec l'Iran. Donc, vous voyez, il y a ce jeu-là.
Il dit, si j'avais été président des États-Unis, rien ne se serait passé. Ouais. Mais enfin, les Israéliens écoutent les Américains. En 91, il y avait Shamir qui était Premier ministre, qui était tout aussi dur que Benjamin Netanyahou, même plus dur. Les Irakiens ont bombardé avec des missiles autrement plus puissants Tel Aviv, avec des blocs de pâté de maison qui sautaient un peu partout. Et les missiles arrivaient dans le centre de Tel Aviv. Israël n'a pas réagi parce que Bush père lui a dit de ne pas réagir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Et je répète, je ne pense pas qu'il y aura une rétaliation très sévère des Israéliens. Il y aura une rétaliation, évidemment, mais pas une rétaliation très sévère qui les mettra en porte-à-faux avec l'administration américaine qui les protège.
Allez, quelques mots de fin avec vous, Denis et Muriel.
Les États-Unis, de façon, n'ont cessé, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait des brouilles avec Netanyahou, ils n'ont pas cessé, justement, de vouloir apaiser les choses. De toute façon, les États-Unis, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'ils sont en année électorale. Donc, ils ne veulent surtout pas une guerre. Deuxième élément, l'opinion américaine ne veut pas de nouvelles guerres. Donc c'est là où il est coincé, Biden, c'est qu'ils ne veulent pas de nouvelles guerres. Troisième élément, les Américains ne gagnent plus leur guerre. C'est statistique, c'est factuel, ils ne gagnent plus leur guerre. Quatrième élément, s'il y a guerre au Proche-Orient, elle va devenir incontrôlable. Parce que comme l'a dit Arnaud, il y a énormément de pays arabes tout autour du petit État israélien, et ça peut faire des réactions en chaîne. Biden ne veut surtout pas mettre un dollar dans l'affaire parce que ça va être incontrôlable. Dernier point pour répondre à un
très rapidement,
ce qui est très important, c'est que malheureusement, dans cette affaire, pourquoi ces journées disent ça, c'est que petit 1, ça ne se finira que avec de la diplomatie, pas autre chose. Petit 2, il n'y a pas d'entité politique crédible, malheureusement, avec qui discuter à l'heure actuelle pour trouver la fin du conflit et une solution à deux États.
Réaction donc, je le rappelle, l'Iran s'estime s'être vengé et met en garde Israël. Elle a appelé ce dimanche à Israël à ne pas réagir militairement à son attaque inédite lancée dans la nuit. L'affaire peut être considérée comme close, a annoncé la mission iranienne à l'ONU dans un message posté 3 heures après le début de son opération, Muriel.
Alors moi, j'aimerais simplement rappeler que ce qui se passe depuis 24 heures, depuis ces dernières 72 heures, s'inscrit bien évidemment dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc le logiciel qui était celui d'avant, que mon confrère Klarsfeld a rappelé, logiciel historique avec les relations avec les États-Unis, qui serait en fait là en train de dicter plus ou moins à Israël sa conduite, ça ne fonctionne plus. Depuis le 7 octobre, nous ne sommes plus sur la même scène. Les choses ont totalement changé. Le drame qui s'est déroulé le 7 octobre a rebattu les cartes et a rebattu la manière dont Israël va se défendre. La situation est telle en Israël aujourd'hui qu'elle n'a pas beaucoup d'alternatives. Donc moi, je ne sais pas, je ne suis pas certaine que même si les États-Unis demandent à Israël de temporiser ou de moduler ou de modérer la réponse, je ne suis absolument pas certaine qu'Israël l'entendra. Je le rappelle, il s'agit d'une menace existentielle pour Israël. Israël se bat pour sa survie aujourd'hui, et c'est de sa survie à elle dont il s'agit, et non pas de la survie des États-Unis, et non pas d'un calcul géopolitique dans lequel Israël n'aurait pas son mot à dire.
Il suffit d'attendre quelques jours, et vous verrez si Israël bombarde puissamment.
C'est une question existentielle pour Israël.
Vous verrez si
la réalité, c'est que les drones sont tombés.
Une seconde. Vous verrez si Israël bombarde puissamment l'Iran, ou si c'est un bombardement qui est un bombardement bombardement conjoncturel.
Je rappelle les faits, simplement les faits.
Les amis.
Ce sont des drones tueurs qui sont arrivés sur Israël et c'est de cela dont
on parle. Vous entendez la petite musique ?
Ils n'ont pas le choix, ils ont besoin d'armement américain pour bombarder massivement l'Iran.
Denis, Patrice,
les États-Unis ne peuvent
pas. Désolé, mais la petite musique est là. Fin de cette édition spéciale de Minnews The Weekend consacrée à cette attaque de l'Iran contre Israël. Merci pour votre participation, évidemment, pour vos éclairages. Merci à toute l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission spéciale. François Hepp, Anne-Isabelle Tollet, Sébastien Bendotti, Margot Naudin. Merci également, super travail de la programmation avec tous ces témoignages. Magdalena Dervish, merci beaucoup Magdalena, c'était pas facile à préparer. Merci aux équipes en régie, réalisation Anouk et Virginie, vidéo Rémi et Samuel, son Amanda. Tout de suite, Enquête d'esprit avec Émeric Courbet et puis, bien sûr, à 14h, Lionel Rousseau qui reviendra dans 180 minutes info sur cette attaque de l'Iran contre Israël, évidemment. Malgré tout, passez une bonne journée. Je vous dis bye bye et je vous retrouve vendredi pour Mini News à partir de 12h. Bonne journée malgré tout.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.